Hello everyone,
Bonjour tout le monde, j'ai quelques annonces aujourd'hui. Marc, Pam et Mike de l'Ohio vont maintenant servir en tant qu'anciens et félicitations à chacun d'entre eux. Aussi tout le monde aurait dû recevoir les informations concernant la fête des tabernacles. Si ce n'est pas le cas, faites-nous le savoir puisque nous devons compléter ces plans. Il y a aussi les formulaires pour l'assistance financière qui seront disponibles dans quelques jours. Maintenant, pour le service et le sermon d'aujourd'hui par Terry Rozak. Récemment, nous avons discuté de sujets pendant et depuis la saison des pains sans levain, comme retirer le levain, la délivrance, un cœur de chair, et établi dans l'unité. C'est vraiment impressionnant et ça apporte de l'inspiration quand je réécoute et que je considère ces messages et comment l'un conduit à un autre et que le suivant le suit. Et il y a eu une progression. Ça n'a pas été planifié par moi-même, mais c'est de la manière dont ils ont été donnés. Et ça aussi inclut les autres messages entre-temps qui ont été donnés par les autres évangélistes. Et comment est-ce qu'ils s'enclenchent les uns des autres et on réalise qu'il y a eu un plan, que les choses ont été organisées et on voit comment Dieu organise l'Église et comment est-ce que les choses sont préparées et conduites avec chaque individu, avec nos fautes et nos péchés. Il travaille avec nous et nous nous tournons vers lui, nous lui demandons de l'aide. Il nous enseigne et il conduit son peuple. Donc, dans cette introduction, nous allons réviser certains des points essentiels de ces sermons, comme nous considérons cette progression dont nous venons de parler, qui va soi-même conduire dans le sujet suivant, qui va être discuté aujourd'hui. Donc, je n'ai pas connecté tous ces trois premiers sermons jusqu'à aujourd'hui, où ce qui était dans ma tête, dans ma pensée, et tout ce que j'ai investi en pensée, en travail, en préparation. C'est comme ça que Dieu travaille parfois. Il vous conduit au long du chemin avec tout ce que vous avez traversé et vous regardez en arrière et vous réalisez « Oh, wow, regarde comment Dieu travaille. » C'est comme ça que Dieu œuvre et il conduisait l'Église. Il faut considérer ces choses dans la totalité de toutes les choses qui sont faites, les choses à travers lesquelles nous passons et comme il travaille, il nous prépare. Il nous conduit à travers les épreuves et les tests. C'est l'épreuve de notre foi. Donc nous pouvons voir où nous tenons alors que nous le suivons, que nous sommes conduits. Nous retirons le levain de notre vie. Est-ce que nous allons le laisser retirer le cœur de pierre et le laisser mettre un cœur de chair en nous? Est-ce que nous allons le laisser œuvrer en nous pour qu'il nous établisse dans l'unité, avec un esprit semblable, similaire, avec un dessein semblable, une direction, sa direction, sa façon. C'est vraiment impressionnant comment Dieu travaille, comment Dieu œuvre. Donc encore, nous allons réviser brièvement les points essentiels de ces derniers sermons. Retirer le levain, la délivrance, le cœur de chair est établi dans l'unité. Donc, retirer le levain. Matthieu 22 et verset 37, il dit: Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et quand nous révisons ce verset, mes frères, il est souligné que ceci n'est possible d'aimer Dieu ainsi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, n'est possible que seulement si nous avons une relation sans levain avec notre Père. une relation sans fierté. Sans fierté. C'est la différence entre une relation sans levain avec Dieu et c'est la différence entre ayant de l'humilité ou la fierté. Un esprit d'humilité. Se tourner vers Dieu, attendre vers Dieu pour avoir la force dont nous avons besoin pour continuer dans ce chemin. Ce n'est possible que dans une proximité avec Dieu, d'aimer votre Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Et le second, tu es semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceci n'est possible que quand vous avez une relation avec Dieu. Alors vous pouvez ensuite avoir une relation avec votre frère. Ça commence avec une relation avec Dieu. Et il dit, dans verse 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous avons aussi révisé le 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Où il dit, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce dont on a parlé, que le péché doit être retiré de notre vie. Et comment dans les jours des pains sans levain, il faut qu'on en retire tout le levain de nos maisons. On trouve du pain, du levain, qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on le rejette rapidement, on s'en débarrasse, on le retire. Même attitude, même comportement que nous devrions avoir quand on voit le péché dans notre vie. Dieu nous montre le péché dans la vie. On doit se repentir rapidement pour le retirer, pour devenir sans levain, pour le purifier, le purger. Purger le vieux levain pour que vous deveniez une nouvelle pâte. Et verset 8 dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain. Mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. De la sincérité et de la vérité. Vivant le sans levain, la vie sans levain de Dieu. S'efforçant de vivre comme ça, se purifiant, s'efforçant de purger notre vie de tout levain, de tout péché. Parce que le péché nous fait gonfler. On devient rempli de fierté. On se sépare de Dieu. On rejette. On n'écoute pas. On refuse d'écouter. On ferme nos oreilles. On se bouche les oreilles. On refuse d'écouter. Lorsque nous avons la fierté dans notre vie, on écoute Dieu. On se tourne vers Dieu. Se retournant de... Parce que c'est toujours là, toutes les semaines qui passent après cela, on a toujours de la fierté, de l'orgueil, on a toujours le péché, il faut toujours se battre, le combattre. Il faut demander à Dieu de nous aider, de manière à ce que nous puissions le voir, donc nous puissions être enseignés. Nous acceptons l'enseignement, nous avons une attitude d'humilité. C'est lui qui nous montre où nous sommes dans le temps et nous fait voir quelle est notre part de travail. Ce que nous avons besoin de faire dans notre relation avec Dieu, d'être sans levain, de retirer ce qui est vilain, de la fierté qui est horrible, la retirer de notre vie. L'orgueil, le replacer par la sincérité et la vérité. C'est ce que Dieu veut faire pour nous. Si vous lui demandez, il faut lui demander qu'il nous aide. Parce qu'on a tous la fierté, on a tous du péché, le péché nous fait gonfler. Ça nous sépare de Dieu, il nous coupe. On a nos propres idées, nos propres désirs, on veut faire ce qu'on veut faire, on ne veut pas écouter. C'est dans chacun de nous. Il faut demander à Dieu de nous aider, aide-nous, de nous en débarrasser. de le purifier de notre vie. On a besoin de Dieu pour nous purger. On a besoin de son aide. On a besoin qu'il nous délivre. Vous voyez, on a parlé d'examiner notre relation avec Dieu. Là où ça contient du levain, qu'il y a du péché, il y a du péché dans nos pensées. Vous voyez, il faut qu'on aime notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Elle dit dans la Genèse, le premier verset, Abraham avait 99 ans, et donc l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, parfait, sois complet, sois sans tache, sans faute et sans levain. Retirez le levain hors de votre vie, car le péché vous ferait gonfler comme le levain. Et c'est comme ça qu'on devient plein de fierté, ne voulant pas écouter. Et Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait et intègre, sans tache, sans faute, sans péché, sans fierté. Et s'efforçant de sortir du levain, sortir du péché, retirant le levain. On a parlé de différents types de fierté, la fierté que je vois parmi mes collègues de travail. Mais si je regarde plus proche, je me vois moi-même, cet orgueil égoïste. Un orgueil égoïste que je vois en moi, c'est à propos de nous-mêmes. Non, c'est à propos de ce que fait Dieu, ce que Dieu fait. Ça, c'est pas égoïste. Il n'y a pas de place pour l'orgueil égoïste. Ça ne nous concerne pas nous-mêmes, c'est à propos du plan de Dieu. C'est à propos de ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, lui, son plan et sa volonté. Nous parlons de la fierté intellectuelle. On nous a rappelé la vérité, la vérité simple et pure. Quand on est appelé à sortir de ce monde, ça a un sens, c'est clair. La Bible a un sens, la vérité de Dieu a un sens. Et c'était simple et pur et propre. C'était facile à comprendre, c'était net. C'est comme dans un paquet pour nous. Étant conduit par l'Esprit de Dieu, qui ouvre notre esprit, notre pensée, qui nous fait sortir des ténèbres. Quand on est aveugle, qu'on ne pouvait pas voir, il nous a donné la vue, il nous a donné de comprendre. On n'a pas besoin d'être plein de nous-mêmes, remplis d'orgueil. C'est pas notre intellect. Ça n'a rien à voir, notre capacité de raisonner. C'est à propos de Dieu. La vérité vient de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Nous devrions être dépendants de lui. Notre dépendant de nous-mêmes et de notre propre fierté. Dieu nous donne la vérité. Nous ne la générons pas. Elle vient de Dieu. On voit comment Dieu travaille. Comment il nourrit l'Église. Gardez ça à l'esprit. Quand on parle des positions que nous avons dans l'Église ou dans la vie, la fierté d'avoir une position particulière, nous sommes censés nous servir les uns les autres. Ça n'a rien à voir avec la position que nous avons dans l'Église. C'est à propos du service. Il s'agit de servir Dieu, d'avoir une bonne relation avec Dieu, pour servir nos frères, nos sœurs, servir Dieu et vivre le mode de vie de Dieu. Without pride. Sans fierté.
Without position.
Sans la position.
There's a verse that talks about,
il y a un verset qui parle.
I can use stones.
Je peux utiliser des pierres. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il peut faire son travail, son œuvre. Il peut l'accomplir sans nous.
So repent.
Donc, repentez-vous des fiertés concernant les positions que nous avons.
Whether it be puffed up in
que nous soyons position, remplis d'orgueil à propos d'une position
or whether it's
ou que
envious of a position.
Nous ayons ressenti de l'envie à propos de, d'une place que quelqu'un a.
Sin. There's no room for pride.
Il n'y a pas de place pour la fierté.
And then we have the pride of appearance.
Il y a la fierté de l'apparence.
Remember, pride
me souviens
is ugly.
Que souvenez-vous que la fierté est vilaine.
You know, look in that spiritual mirror.
Regardez dans le miroir spirituel, dans le miroir de Dieu.
Ask him to help you see where pride is.
Demandez-lui de vous aider, de vous faire voir ce que la fierté représente et de quoi elle a l'air vraiment.
Ask him to help you see how ugly it is.
Demandez-lui de vous aider à voir comment c'est vilain.
How when you put things before him, that you pump
vous mettez les choses
up,
devant vous, que vous gonflez d'orgueil. Il n'y a pas de place pour ça.
Pride. Pride,
la fierté,
just ugly.
C'est simplement vilain.
And then there's a religious pride.
Et il y a la fierté religieuse. On voit ça dans tout le monde entier, dans toutes les églises et en nous-mêmes. On est tous des êtres humains dans ce monde. Il nous a été donné une opportunité. Nous devons chercher Dieu et être plein de reconnaissance pour la compréhension que nous avons et ne pas regarder de haut les autres.
Not their time.
C'est pas leur moment.
It's not their time. So we reviewed in this five
donc on revu toutes les types, les genres de fierté. On revoit cela, on les étudie, on les connaît. Et Jésus a résumé le grand commandement de Dieu, aimez Dieu d'abord, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces. Et alors vous pouvez aimer votre prochain comme vous-même. Nous devons devenir et nous efforcer de devenir sans faute, sans tache. Juste comme Jésus-Christ était, il a vécu une vie parfaite, était sans levain. Nous échouons souvent, mais il y a un chemin à travers la repentance. Le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons nous efforcer à retirer la fierté, l'orgueil de notre vie et l'enlever, de redevenir un, unifié, de devenir complet. Donc il n'y a pas de place pour la fierté. Nous devons avoir de l'humilité et chercher sa justice. Et nous avons parlé de la délivrance. Et comment nous avons besoin de regarder vers Dieu pour la délivrance, nous attendre à lui. Comme nous commençons à sortir du péché. Quand il nous appelle, quand on commence à sortir du péché et que le vin commence à être retiré de notre vie et que la fierté est retirée et on regarde à ça et on voit qu'il peut nous délivrer. Il peut nous délivrer de cela. Travaille avec nous. Et on peut avoir une attitude et un comportement qui est beaucoup plus approprié comme il dit dans le psaume 70. Il dit, ô Dieu, viens me délivrer, Éternel, hâte-toi de me secourir, de me délivrer, de m'aider. Hâte-toi, aide-moi. Et donc encore, il parle de ces choses, quelque chose de plus profond, de nous délivrer, de nous sortir, de me défendre. Sors-moi de ce monde. De me préserver, de me délivrer, de me sauver. C'est ce que nous lui demandons, qu'il le fasse en hâte, qu'il se dépêche de le faire.
Or enjoyment, to be ready to be delivered.
D'être prêt à être délivré et de nous réjouir dans l'attente de cela.
The right attitude.
D'avoir une attitude,
yes,
un comportement
have the right
propre.
Attitude about it.
Une bonne attitude, un bon comportement à ce sujet.
And to help me.
Viens nous aider, car il est notre aide. Il nous donnera de l'aide. Il va le faire. Si nous tournons vers lui et que nous attendons son aide, il le fera. Mais encore, mais pas dans une relation pleine d'orgueil ou de fierté. Parce qu'il continue en disant, dans le psaume 70, car je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, Seigneur, que tu m'aides. Hâte-toi, car tu es mon secours, tu es mon libérateur. Je suis pauvre et malheureux. D'être affligé, destitué, sans fierté, sans levain, prêt à être délivré, prêt à être libéré. Et nous avons parlé du moment où Israël a été délivré d'Égypte, dans Exode 14, verse 10. Quand le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux, et les Israélites furent remplis de crainte, et ils crièrent à l'Éternel. Et ils pouvaient voir Égypte s'approchant d'eux, les poursuivant.
Which Egypt represents.
Ils voyaient le péché que Égypte représente.
They were afraid.
Ils étaient terrifiés.
And they cried out to the Eternal.
Et ils crièrent vers l'Éternel.
Just as when we see sin.
Juste comme quand on voit le péché et ce qui est vilain dans la fierté.
When we see the face of evil.
Quand on voit la
when
face
we see sin in our lives.
Du mal, qu'on voit du péché dans notre vie.
We should have the same attitude.
On devrait avoir le même comportement, la même réaction. On devrait avoir peur, on devrait crier vers Dieu et nous repentir et chercher la repentance et chercher le pardon de Dieu. Chercher à restaurer notre relation avec notre Dieu. Et alors nous avons révisé Éphésiens 4 au début du chapitre qui dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été donnée. C'est un appel, un dessein spécial dans votre vie. Encore une fois, avec toute humilité et douceur et avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et donc, il nous a été aussi rappelé que nous n'avons pas résisté jusqu'au sang. Faisant partie de cette délivrance, de ce process de devenir sans levain, ce processus de délivrance, de retirer le péché de notre vie, et alors ensuite la délivrance, le processus de délivrance qui commence de travailler avec nous, en nous, de nous délivrer. Nous faisons notre part avec humilité et gentillesse, s'efforçant de conquérir le péché. Parce que, au bout du compte, Dieu veut nous donner un cœur de chair. Il veut retirer le cœur de pierre et le remplacer avec un cœur de chair. Nous avons été rappelés, il nous a été rappelé dans ce sermon que l'Éternel a dit à David, tu ne construiras pas une maison pour moi parce que tu as été un homme de guerre et tu as versé le sang. C'est quelque chose à quoi nous devons penser. Avons-nous été des gens de guerre? Avons-nous versé le sang? Dieu veut que nous soyons des Salomon, comme il nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous soyons son temple, le temple du Saint-Esprit, un endroit pour qu'il puisse demeurer. Donc, de nouveau, si nous sommes constants, si nous continuons continuellement à nous efforcer à conquérir le péché, à construire cette bonne relation avec notre Dieu, si nous sommes constants de faire ses commandements, ses jugements, si nous vivons le « if », le « si », il nous délivrera. Et nous aurons une audience avec Dieu. Donc à nouveau, si nous le servons, si nous pratiquons ce mode de vie, si nous le servons avec un cœur parfait et une volonté de nos pensées, nous savons que Dieu cherche notre cœur, nos pensées. Si nous le cherchons, nous pourrons le trouver. Il se laissera trouver. Si nous le cherchons, et il nous délivrera. Et il nous donnera ce cœur de chair. Et encore, une partie de la difficulté, qui fait partie de cette difficulté, c'est notre cœur normal, humain. Il est naturellement séparé de Dieu. Parce que, comme ça nous a été rappelé, notre cœur est plein de tromperies, de supercheries. Il est pollué, séparé de Dieu, plein d'orgueil. Nous n'avons pas naturellement l'inclinaison à combattre le péché. Quand nous ne retirons pas le levain, c'est méchant, c'est fragile, c'est faible, c'est malade, c'est maudit. Coupé, séparé de Dieu, quand nous avons plein de levain et plein de péchés, lorsque nous devenons entêtés, rebelles et aveugles, sans repentance, refusant d'écouter. Et ça rend Dieu triste quand vous êtes dans cet état. C'est pas ce qu'il veut pour nous. Il veut vous donner ce nouveau cœur, ce cœur de chair. Il veut que nous ayons un esprit semblable et similaire. Dans un seul esprit, il veut retirer ce cœur de pierre. Il a ce désir de nous donner un cœur de chair. Et alors que ce processus continue, alors nous pouvons être établis dans l'unité. Nous pouvons être établis dans l'unité. Et dans ce sermon, nous avons révisé Exode 19 qui dit: maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est une promesse de Dieu que si nous obéissons, si nous gardons ses voies, son alliance, ce mode de vie, si nous vivons le « si », nous serons son peuple. Nous serons son peuple spécial, très, très, très précieux, ses joyaux.
begin thinking about.
Donc nous pensons aussi à ces,
beyond usual.
C'est ce peuple spécial qui est particulier pour lui.
Unusual.
Très inhabituel dans ce monde.
Inhabituel
pour s'efforcer, pour être ceux qui s'efforcent de vivre comme Dieu l'entend. Et il nous soutient et nous encourage. Il nous nourrit, nous guide. Complètement inhabituel dans ce monde, au-delà d'être inhabituel même. Vraiment très spécial. Un peuple très spécial, des gens spéciaux. Parce que nous sommes choisis, nous sommes choisis, des gens spéciaux, une prêtrise royale. Et encore, parlant de l'intention et l'objectif d'être établi dans un seul esprit, étant établi dans l'unité. Et aussi, nous avons parlé de cette vocation où il est dit dans Éphésiens 4, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et on considère ce mot « vocation ». Une vocation, c'est une occupation, c'est un travail, une tâche à laquelle une personne a été attirée, spécialement. Un travail auquel nous avons été attirés, spécialement. Attirés, retirés de ce monde, amenés vers cette tâche, par Dieu le Père, individuellement, attirés. Spécialement, très spécialement, attiré, individuellement attiré, pour un travail, pour une tâche. Ça a été adapté. On n'a pas nécessairement eu la bonne attitude, le bon comportement à ce sujet. On n'a pas eu l'humilité de manière à ce qu'ils puissent nous éduquer, nous entraîner, afin que nous devenions qualifiés. C'est ça la vocation dans laquelle nous devons marcher, de faire tous les efforts nécessaires pour que nous soyons diligents, de mettre le travail, d'investir le travail nécessaire, les efforts, pour faire ça et pour le faire marcher. Travailler, jeûner à ce sujet, nous efforcer de retirer le péché et de construire cette relation avec Dieu. Et il dit dans Éphésiens 2 que nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été appelés de ce monde, de sortir de ce monde. Sortis de nos conduites préalables, nos comportements, de cet état d'esprit que nous avions influencé par Satan et les démons. Dieu nous a appelés à sortir de ce monde. Il nous a donné une opportunité par sa miséricorde et son grand amour, parce qu'il nous aime. Il aime son peuple. Il aime toute l'humanité, parce qu'il y a un dessein pour tous. Il y a un dessein pour tout le monde. À la fin de cet âge, tout le monde qui va arriver, ce monde qui va voir toutes les richesses de sa grâce et de sa douceur, de sa bonté envers nous, nous sommes son ouvrage, de permettre à Dieu de travailler en nous, de nous modeler, de nous façonner, de nous préparer. Nous avons parlé d'un verset dans Éphésiens 5, il dit, voyez, veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Exactement, avec attention, marcher comme Dieu nous s'attend que nous marchions, nous efforcer de marcher dans ses voies, de retirer le péché de notre vie, retirer le levain, étant délivré, acceptant un nouveau cœur, étant établi dans l'unité, étant fidèle à Dieu, nous repentant, ayant besoin d'être convertis, et nous tournant vers Dieu, regardant vers notre Dieu. Donc, retirant le levain, retirant le levain, le péché et la fierté, et changeant cette relation avec le levain en une relation sans levain. D'abord avec Dieu et avec nos frères, sans péché. Et ensuite la délivrance, avec humilité et repentance, regardant vers Dieu pour la délivrance. Et alors le cœur de chair, permettant à Dieu de retirer de nous ce cœur de pierre, en étant constant dans ses voies, fidèle, constamment présent, étant constant dans ce travail, dans cette œuvre, en poursuivant cet effort, pour que finalement nous soyons établis dans l'unité. À cause de cet appel, à cause de cette attraction, nous avons été attirés vers lui pour être le peuple spécial de Dieu, ces joyaux avec un seul esprit, une seule pensée, un seul dessein, établis dans l'unité, dans notre appel et notre repentance, et le baptême, et la pardon des péchés, et l'imposition des mains, et recevant le don du Saint-Esprit, ce processus à travers lequel nous avons tous passé. Est-ce que c'est pas impressionnant comment Dieu nous travaille, comment Dieu travaille avec nous et nous donne cette capacité de repentir, qui nous permet d'être baptisés, d'être pardonnés des péchés, recevoir l'imposition des mains, et recevoir le Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Et tout ça nous conduit à cette opportunité de devenir le peuple spécial de Dieu. Mais après cela, nous arrivons dans l'étape suivante dans cette progression, la suite de ce message que nous avons reçu, de continuer dans ce mode de vie, de récolter les bénéfices. Nous devons avoir la foi. Nous devons vivre le mode de vie de Dieu par la foi. Nous devons vivre par la foi, et c'est le titre du sermon d'aujourd'hui, vivre par la foi, vivre par la foi. Allons maintenant au livre des Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11. On va regarder au verset 1. Hébreux 11, verset 1. Il dit, or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc, voilà ici la définition de la foi. Qu'est-ce qui est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Prenons quelques minutes et regardons à ce verset plus profondément. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans ce verset? Qu'est-ce qui est dit? Recherchons le sens plus profond de ce qu'est la foi. On va regarder à ces mots.
Donc,
maintenant. Maintenant ou or, voici, ça va nous expliquer ce que c'est. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire ce qu'est la foi. Or, la foi, si nous regardons à ce mot, dans le grec,
on regarde dans
la foi, de gagner quelqu'un, de persuader de quelque chose qui est cru, une doctrine, ayant donné la capacité de croire. Donc c'est quelque chose qui nous gagne, qui nous persuade, quelque chose que nous croyons. Ça a quelque chose à voir avec la doctrine donnée par Dieu. Il s'agit de la capacité de croire. Car la foi est de Dieu, ça va vers Dieu, et ça vient de Dieu. Donc tout commence avec Dieu, tout ça. C'est ce qu'il nous a expliqué. Premièrement, il dit, la foi vient de moi. Dieu dit, la foi vient de moi. Ça vient de moi, ça va vers moi, ça vient de moi. Et ça a la capacité de nous gagner. Ça nous donne la capacité de croire. Et nous donne la persuasion de ce que Dieu veut que nous fassions. Comment vivre notre vie. Il veut que vous choisissiez la vie. Un autre point sur la foi. Il donne l'entrée au salut, l'existence d'elle-même, l'existence personnelle qui est donnée de Dieu. C'est les choses que nous croyons. C'est ce que Dieu en Christ a pour l'homme, qui résulte dans la transformation du caractère de l'homme dans son mode de vie. Ça, c'est la foi. C'est de croire, ça vient de Dieu, il s'agit de croire une doctrine, de croire de Dieu, de croire en Dieu et de sa doctrine, de ce qu'il nous donne. Et puis, c'est d'être persuadé par Dieu, de choisir la vie, de vivre ce mode de vie, et le résultat, la transformation qui en découle est notre caractère, la transformation de notre caractère dans ce mode de vie, un changement qui change ce que nous faisons et ce que nous vivons, comment nous vivons, et traversons des épreuves et des tests, des difficultés, qui nous transforme, la transformation de notre caractère, de notre pensée, qui construit un caractère saint, pur. Et Dieu finalement nous voit changer et il dit, je vous connais, je te connais maintenant, je connais ton caractère. Il a grandi, il a été transformé, comme notre mode de vie a été transformé. Et c'est différent de quand nous sommes sortis de ce monde. De vivre un différent mode de vie. Nous donner une opportunité de transformer ce que nous faisons sur un mode de vie de manière journalière, tous les jours. Comme notre pensée est transformée. Ça construit un caractère, ça fabrique un caractère. Donc de Dieu, vers Dieu et à Dieu. Donc là, la foi, c'est la confiance. La confiance. Nous faisons ces choses par confiance. Ne doutant pas du tout. Totale confiance, totale en Dieu et en sa loi. D'accomplir sa volonté. Il y a tellement dans ce verset, mes frères. Dieu nous donne tellement dans ce verset. Si nous prenons le temps de creuser, de chercher, et d'être enseigné, et d'avoir un comportement qui est simple, qui est humble, qui peut recevoir l'enseignement, de retirer la fierté, d'avoir une bonne relation avec Dieu, qui nous guide, qui nous conduit, qui voit, qui travaille avec nous, qui nous donne les choses dont nous avons besoin. Et encore une fois, donc la foi, c'est la confiance, ne doutant pas. C'est la confiance en Dieu qu'il va accomplir sa volonté.
His will.
Sa volonté. La confiance en Jésus et en son évangile. Donc, maintenant la foi, or, d'une manière, en expliquant ce que c'est, donc, ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, ça va vers Dieu, c'est pour nous gagner, nous persuader, nous donner la capacité de croire, d'être convaincu de la vérité, la doctrine. La foi, c'est une persuasion de ce que Dieu veut que nous fassions. Choisissez la vie, faites partie de sa famille, faire partie. Il s'agit de la transformation de notre pensée, de notre caractère. C'est la confiance sans douter de... la confiance, la confiance de, que Dieu va accomplir sa volonté en nous, pas non seulement dans notre vie, mais dans ce monde.
Donc,
or, donc, la voie, c'est l'assurance, la substance, la chose de base, la confiance, l'assurance, la garantie, la preuve, la certitude, la démonstration. Ça, c'est la substance, l'assurance d'être soumis à cela, une qualité qui endure, qui entreprend, qui a une fermeté, une hardiesse, une confiance. Ça, c'est la substance. C'est la substance. Donc, la foi, c'est la substance ou l'assurance. La confiance, l'assurance, la garantie, la preuve, la base, la certitude, la qualité qui, sous laquelle nous nous soumettons dans la vérité, qui entreprend quelque chose, qui s'efforce contre le péché, qui s'efforce dans les bonnes relations de vivre ce mode de vie, avec une fermeté, une hardiesse, une confiance. Donc, la foi, c'est l'assurance, la substance des choses qu'on espère, dans l'espérance que nous attendons, que nous espérons avec un grand profond désir. Pour que quelqu'un ait la confiance et la détermination, je crois, ceux qui mettent leur confiance en Dieu et font confiance en Christ, et ils espèrent, ils désirent, ils attendent. Nous comprenons que la foi, c'est de Dieu, ça va vers Dieu, c'est en Dieu. Il nous donne la capacité de croire, de comprendre la doctrine, la substance ou la confiance, qui nous donne l'hardiesse de tenir bon, de désirer, de rester dans la foi, que Dieu va faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a dit qu'il allait faire. Nous avons cette confiance. Donc la foi, c'est la substance, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration, l'évidence, la conviction dans notre pensée, la persuasion dans notre pensée, irréfutable contre l'adversaire, l'évidence, le résultat qui doit être récolté. Donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration, l'assurance de celles, des choses, des choses que nous allons faire, qui va être faite, qui doit être faite. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est la progression, c'est un processus. Et dans sa définition, il y a des choses qui doivent être faites et des choses qui sont faites, alors que le plan de Dieu se réalise. Des choses qu'on ne voit pas. Car c'est intéressant ici, le mot est traduit comme si ce n'est pas. l'idée de l'unité, d'une totalité, d'une complété, bien assemblée ensemble.
Right? The
144
000,
les
premiers. Right?
Et après quoi, toute l'humanité va recevoir cette opportunité.
Les
choses qu'on ne voit pas.
Oneness,
cette unité, l'idée de l'unité, la totalité, la complète unité.
All the generations,
toutes les générations,
all the generations, from all the generations of mankind,
de l'humanité,
to be one,
d'être
to be
un,
total, the whole,
d'être dans ce total, d'être complet,
all those in the faith,
tous dans la foi,
all 7,000 years of man,
de toutes les 7,000 années de l'histoire de l'homme. Tous ceux qui sont nés, de toutes les générations, tous dans la foi, tous là dans la foi, de toute cette population de l'humanité, auront l'opportunité de cette unité, de cette totalité, du tout, tous, un, établi dans l'unité. Or, la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, l'évidence, la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Ces choses que nous ne voyons pas. Notre foi. Si vous voyez la dernière partie du verset, voir, qui est de notre capacité de voir, la faculté de voir, de la vue, parlant de l'aveugle qui retrouve la voie, la vue. Comme nous sommes appelés à sortir de ce monde, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles spirituellement. Et Dieu nous appelle à sortir de ce monde et nous donne la vue, de retrouver la vue. Donc nous avons la faculté de la vue. Qui veut dire que nous avons la sens de percevoir comme avec nos yeux, de comprendre, de percevoir, de saisir, de discerner, de comprendre. Ça peut être des choses présentes ou des choses à venir. Les choses qui sont vues et les choses qu'on ne peut pas voir. Présent et futur. Mais on peut toujours concevoir, on peut les percevoir dans notre pensée. On peut en être conscient, on peut les observer. Et il va même jusqu'à faire attention. Faire attention. Parce que vous savez, quand nous sommes appelés de ce monde, il nous est donné des yeux pour voir. Mais si on fait notre part, on fait attention, il faut faire attention, autrement nous serons très rapidement retournés dans cette catégorie de ceux qui sont aveugles. Perdre l'Esprit de Dieu. Donc, et voilà, nous l'avons ici, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et l'évidence ou la démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Et encore, en expliquant cela, Dieu expliquant ce que la foi est, d'abord et avant tout, c'est de Dieu, vers Dieu, et ça vient de Dieu. Et c'est pour nous gagner, nous donne la capacité de croire la doctrine, de nous persuader, de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il s'agit de la transformation de notre caractère, de notre mode de vie. C'est la qualité qui nous conduit à nous soumettre ou d'endurer, de continuer à nous battre et d'entreprendre quelque chose, notre appel, nos efforts, de rester proche de Dieu, être ferme et hardi dans cette confiance, d'avoir ce désir, cette espérance, ce désir de faire confiance, de garder la confiance en notre Dieu, de faire confiance en Jésus-Christ.
And how real.
Et comment cela est réel, cette repentance et ce pardon est pour nous. La foi, c'est de rejeter, de repousser l'adversaire. Et de nous attendre au résultat qui doit être récolté. Quelque chose doit être fait. L'idée de cette unité, de cette totalité, de ce tout. Toutes les générations, tous ceux qui sont dans la foi, tous ceux, 7000 ans, tous ceux qui ont vécu, 7000 ans de l'homme, tous ceux-là auront cette opportunité de devenir un, sortant du total, de toutes les générations, de tous ceux qui ont vécu dans la foi, et ceux qui ont vécu dans la foi, par la foi, vont recevoir la capacité de voir avec leurs yeux ouverts, d'avoir la vue, d'avoir la capacité de recevoir, de percevoir, de comprendre non seulement les choses présentes, mais les choses à venir. Et encore, nous pouvons maintenant, avec les choses de Dieu, nous avons cet avertissement. Que si nous ne faisons pas ces choses, il dit de choisir la vie. Mais il dit de faire attention. Même après que vous ayez appelé, que votre pensée a été ouverte, vous avez des yeux qui ne sont plus aveugles, une vue qui a été retrouvée. Vous pouvez percevoir et voir toutes ces choses. Vous pouvez les perdre. Donc, faire attention. Faites très attention. Donc, la foi, c'est l'assurance, la substance des choses qu'on espère, la démonstration, l'assurance de celles que l'on ne voit pas. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? Après tout cela, qu'est-ce que c'est la foi? C'est tellement de choses. Et ça comprend tellement de choses. Ça comprend la totalité du plan de Dieu. Donc avec cela en tête, en disséquant ce verset, en entrant plus profondément dans... Regardons le reste de Hébreux 11. Le reste de Hébreux chapitre 11. Donc, verset 1.
Or,
dans cette traduction qui est Louis II, donc la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration, la preuve de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore par sa foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si on comprend ce que la foi est, c'est tout ce mode de vie. Donc sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte pieuse construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu et partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays d'étrangers, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait cette cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui faisait la promesse. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses, mais ils les ont vus et salués de loin. Les choses n'étaient pas arrivées encore. Ils les voyaient. Ils n'étaient pas aveugles. Leurs yeux étaient ouverts, ils pouvaient percevoir et comprendre. Donc ils sont tous morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses. Mais lorsqu'ils les ont vus, ils les ont salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Donc ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Parce qu'on ne veut pas retourner. Mais eux, en réalité, ils aspiraient à une patrie meilleure. C'est comme nous. Notre désir pour un meilleur endroit, une place meilleure. Ne pas retourner en arrière. Quand notre esprit a été ouvert, qu'il nous a été donné la vue, et qu'on peut percevoir, on ne veut pas retourner et devenir aveugle à nouveau. Ne peut plus avoir la capacité de percevoir, de ne plus connaître le plan de Dieu, et de faire notre propre chose par nous-mêmes, de manière égoïste. Encore une fois, le verset 15. Et s'ils avaient eu la nostalgie de ces choses qu'ils avaient quittées, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspiraient à une patrie meilleure, c'est-à-dire celle qui est céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts, c'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü et vue de l'avenir. C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il se prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils virent que l'enfant était beau et ne craignaient pas l'édit du roi. C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Car il estima en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tient ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme sur une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Et que dirait-on encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Japhté, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres éprouvèrent la moquerie et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là et vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés et maltraités. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là, qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Parce que ça fait tout partie du plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Nous avons de grands exemples de gens qui ont vécu par la foi. Quand nous lisons Hébreux 11. Donc Abel est mort parce qu'il vivait par la foi. Enoch a été enlevé parce qu'il vivait par la foi. Noé recevait des moqueries parce qu'il vivait par la foi. Abraham, il fit exactement ce qui lui avait été dit parce qu'il vivait par la foi. Et Moïse, il obéit Dieu. Et il prépara la Pâque. Et il traversa la mer Rouge alors qu'ils étaient poursuivis parce qu'ils vivaient par la foi. Et que dire de vous, mes frères? Est-ce que vous allez continuer d'aller de l'avant? Est-ce que votre nom sera mentionné avec ceci, d'avancer, d'aller de l'avant parce que vous vivez par la foi? C'est la seule manière, vivant la foi, selon Dieu, d'avoir une relation sans levain avec Dieu, d'atteindre l'humilité et la repentance, cherchant Dieu, attendre Dieu, regardant vers Dieu pour la délivrance. C'est la seule manière de retirer, d'autoriser Dieu à retirer notre cœur de pierre. En étant constant dans son mode de vie, c'est la seule manière de devenir le peuple spécial de Dieu, de devenir son joyau, ses joyaux, avec un seul esprit, une seule pensée, un seul mode de vue, un seul dessein, la seule manière d'être établi dans l'unité, vivant par la foi. Quand vous êtes appelé au début par Dieu, nous avons mis du temps, nous avons été consumés, nous avons été changés, nous avons appris. On avait ce comportement envers le changement. On voulait changer. On voulait faire des changements dans notre vie. On voulait accepter le changement. Parce que nous savons d'où nous avons été appelés, nous savons ce qui nous a été offert. Et nous avons vu l'aveuglement qui a été retiré de nos yeux, et nous pouvons voir, nous pouvons percevoir et comprendre le plan. Et la Bible, soudain, est claire, elle a un sens. C'est clair, c'est simple, nous pouvons la lire et la comprendre. Et la saisir, ça continue d'être nos comportements? Est-ce que ça continue d'être notre attitude? Est-ce que nous nous efforçons d'être un enfant en Dieu? Comme ces petits enfants, comme nous allons le voir plus tard. J'ai donné cet exemple avant. Un exemple physique. Je me suis souvenu à un moment, il y a à peu près 30 ans de cela, juste après avoir été appelé, je commençais à comprendre certaines choses. Une de ces choses était les nourritures pures et impures. Et j'étais à la maison de mes parents, et d'une manière très inhabituelle dans notre maison, on avait commandé une pizza. Mais c'était très inhabituel.
Donc,
quand je grandissais chez mes parents, dans leur maison, on n'avait jamais eu de pizza. Peut-être qu'on en faisait une ou deux de temps en temps, mais on n'avait jamais commandé une pizza. Je me souviens avoir mordu dans cette portion de pizza. Et tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait des pepperoni, il y avait du saucisson dessus. C'était physique. C'était une chose physique, matérielle. Mais comme un enfant en Christ, je venais juste d'avoir été appelé. Je venais de commencer à comprendre. Ma réaction était un dégoût total. Je voulais vomir. J'ai couru, j'ai sorti. J'ai crié. J'étais malade à l'intérieur. J'étais malade dans mon cœur. J'ai crié pour recevoir, être pardonné. Sur une bouchée de porc. Un tout petit bout. Mais voyez, mes frères, ce comportement comme un enfant, quand vous êtes appelé au début, d'avoir cette opportunité. On veut. Je continue à penser quand Israël a vu les Égyptiens les poursuivre, ils ont été piégés, il y avait la mer devant eux, la peur, la terreur. Et ils ont crié vers Dieu pour la délivrance. Quand on pêche, on échoue. On veut se repentir et on veut changer, chercher la repentance de notre Père, de notre Dieu, pour avoir une relation sans levain avec Dieu. D'avoir cette bonne réponse, sa réaction. Donc quand on pêche, que ça nous rend malade à l'intérieur. Ça devrait. On devrait craindre d'aller contre Dieu. On devrait vivre par la foi. Allons maintenant à Matthieu 24.
Matthew 24 and verse 29.
Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous avez-vous la foi? Avez-vous la capacité de croire, d'avoir la confiance, d'espérer, d'attendre avec un grand désir, d'avoir cette certitude que ceci sera fait, ça arrivera? Parce que ça fait partie de la foi. C'est la foi d'être convaincu, d'avoir ce désir et cette espérance, cette certitude que ceci sera fait, ça va arriver. Est-ce que vous avez la foi dans le retour, la venue du Fils de l'homme? Dans cette partie de l'accomplissement du plan de Dieu, est-ce que vous le croyez? Avez-vous de la confiance dans cela? Vous l'espérez? Vous le désirez? Vous avez de la certitude que cela arrivera, que ça aura lieu? Verset 32. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ça, c'est un verset intéressant lui-même. Quand ces feuilles commencent à sortir en été, au printemps, est-ce que c'est déjà l'été se présente? C'est une saison. C'est l'arrivée de l'été, c'est la preuve de cela. Donc apprenez cette parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, il parle ici du verset précédent. Sachez que c'est proche, à la porte, parlant du retour de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Est-ce qu'on a de la foi? Avez-vous de la confiance? Avez-vous cette certitude que la parole de Dieu aura lieu et arrivera? Vivez-vous par la foi? Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Car comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc la vie continuait tout à fait normalement, comme ce sera le cas dans le retour de Jésus-Christ. Les choses continueront. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour, quelle heure votre Seigneur viendra. Sachez, sachez le bien. Si le maître de la maison avait savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas laissé personne entrer dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne le penserez pas. Donc, lorsque nous attendons le retour de Jésus-Christ, est-ce que vous vivez par la foi? Comme nous l'avons disséqué dans ce verset, la définition de la, du mot de la foi, la définition de la foi, est-ce que vous vivez par la foi? Vivez-vous par la foi? Êtes-vous persuadé de ce que Dieu veut que vous fassiez? Est-ce que ça a pour résultat la transformation de votre caractère? Dans votre manière de vivre? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vivez par la foi? Est-ce que ça a pour résultat la transformation de votre caractère? Est-ce que ça change la manière dont vous vivez, votre effort de vaincre, que ce changement continue d'avancer jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que vous soyez parfait? Vivez-vous par la foi? Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais servant, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir. Faire attention de dire cela dans votre cœur. Nous vivons toujours par la foi. Mon maître tarde à venir et commence à battre ses compagnons et s'il mange et boit avec les ivrognes, de retourner dans ce monde dans lequel vous avez été appelé à sortir. De remettre les aveuglements sur vos yeux, ne plus être capable de voir, de percevoir, de comprendre, de construire le caractère, ou de continuer dans le caractère, le changement du caractère, de vivre de cette manière, de continuer de s'efforcer, de changer, d'être dans l'unité avec Dieu, d'être établi dans l'unité avec Dieu, d'avoir une relation sans levain avec Dieu notre Père et avec nos frères. Si vous retournez, il dit dans le verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et il lui fera partager son sort avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux est ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. Qu'il trouvera occupé faisant quoi? Pas ce que le reste du verset dit. En abandonnant, en laissant tomber les choses. En se cachant, en remettant nos caches sur nos yeux, en perdant la capacité de voir et de percevoir, d'être coupé de Dieu, mais faisant quoi? Croyant, étant convaincu de ce que Dieu veut que vous fassiez. étant transformé dans votre caractère, devenir dans l'unité, dans la fermeté, dans l'unité et la hardiesse, faisant quoi ? Exerçant votre foi, vivant par la foi. Allons à Luc chapitre 12 et verset 1.
Luke 12 and verse 1. In the meantime,
sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire en premier lieu à ses disciples : d'abord, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous avez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Pensez à cela, mes frères. Pensez à ça. Est-ce que vous vivez par la foi ? Vivre par la foi, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est regarder vers Dieu, de rejeter l'adversaire, celui qui met le doute en vous, celui qui veut vous arrêter et vous faire trébucher et tomber. De vivre par la foi, c'est d'être honnête avec soi-même et de repousser l'adversaire. Cette pensée qu'on trouve dans le monde qui vous fait tomber, afin d'obtenir le résultat de tout ce qui doit être récolté, c'est ça de vivre par la foi. Regardez vers l'objectif. Regardez vers le résultat qui doit être récolté. Le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ça arrivera. Le plan de Dieu s'accomplira. Et nous avons une part à jouer. Si nous vivons par la foi, au degré auquel nous le comprenons, regardant nous efforçant à obtenir le résultat qui doivent être récoltés, les bénéfices. C'est là pour nous. Ça a été fait pour nous. Verset 4. Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 nouveaux moineaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu, mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Verset 8. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'a renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Quand on vous mènera donc devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. Vivant par la foi, Encore une fois, c'est d'être, de faire attention, d'être conscient, d'être convaincu. De vivre par la foi, c'est d'être persuadé, de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, de choisir sa voie, sa vie, la vie, car ses choix seront sur nous. Retournez sur ces versets, contemplez-les, méditez-les. Examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous vivez par la foi? On vit dans des temps effrayants. Il est temps d'être sérieux. Il est temps de prendre les voies de Dieu et l'appel de Dieu sérieusement. Il est temps de prendre votre relation avec Dieu sérieusement. Allons au verset 22. Et donc Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie est plus que la vie, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien voulez-vous pas que de plus que les ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par cette inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? De quoi avons-nous peur? Pourquoi nous inquiétons-nous? Continuons à vivre par la foi. Verset 26. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Pourquoi est-ce qu'on est anxieux? Examinez-vous vous-même d'être dans la foi. Comprenez d'où vient l'anxiété. Regardez vers Dieu. Attendez votre délivrance, votre aide. Verset 27. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi donc l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Vous, il ne parle pas des choses physiques, il parle du mode de vie de Dieu, notre foi. Si nous nous inquiétons des choses de la vie, de ce qui va arriver, ça n'arrive pas, on devient anxieux à ce sujet. On arrive au point où on peut juste retourner et être aveugle à nouveau. Vous, de peu de foi, pas beaucoup de foi. Verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Et en verset 31, cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est de vivre par la foi. C'est de mettre votre confiance en Dieu, encore une fois, d'obtenir le résultat qui sera récolté.
trusting in God,
faisant confiance à Dieu tout au long du chemin,
checking your attitude,
de garder en surveillant notre attitude,
checking your relationship
to de God, surveillant notre relation avec Dieu,
putting your trust in him,
mettant notre confiance en lui,
trusting God to obtain the
faisant confiance en Dieu pour obtenir les résultats et des bénéfices de récolte, les promesses. Les promesses de tous ceux dont nous avons lu l'histoire dans Hébreux 11, qui n'ont pas encore reçu leurs promesses, les promesses de la vie éternelle, la promesse d'être né, de naître dans la famille de Dieu, d'être membre de la famille de Dieu, d'être des êtres divins. C'est ça qui est en jeu. Verset 35 maintenant. Mettez une ceinture à vos reins et que votre lampe soit allumée. Soyez en feu pour ce mode de vie. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir aussitôt qu'il ouvrira et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à la table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux sont-ils. Mais sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Et Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous que tu t'adresses ?» Cette parabole ou à tous? Le Seigneur dit, quel est donc l'intendant fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens de servir pour leur donner la ration de blé au moment convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé de la sorte, d'être en feu, surveillant, vivant par la foi, être conscient à tout moment, n'étant pas inquiet et ayant peur, non, pas du tout, étant dépendant de Dieu, vivant par la foi, ayant les yeux pour la voir, pour voir, ayant la sagesse, la compréhension, connaissance, attendant les promesses, les bénédictions qui doivent être récoltées, juste comme les serviteurs de l'époque dont qu'il est mentionné là, dans Hébreux 11, verset 45. Mais si ce serviteur dit en son lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître, qui n'aura rien préparé et n'aura agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Car on demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Donc vivant par la foi, c'est d'être rempli de l'huile, rempli de l'Esprit Saint. C'est être en feu pour le mode de vie de Dieu et pour le plan de Dieu et pour son appel. Vivant par la foi, mes frères. Donc allons vers Luc maintenant, chapitre 18. Verset 1, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Et il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait vers lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Pensez à cela, mes frères. Quand nous allons devant Dieu, dans la foi, ça ne lui pose aucun problème, ça ne le rend pas anxieux. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Verset 6. Donc le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc nous allons devant le trône de Dieu par la foi. Ça ne crée aucun problème, ça ne le rend pas anxieux. Il nous vengera. Il est patient avec nous. Si nous nous repentissons, si nous vivons par la foi. Vous lisez le verset 8. Je vous le dis. Il les vengera promptement et leur donnera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre? C'est une pensée effrayante. Est-ce que vous, mes frères, réellement vivrez-vous par la foi quand c'est votre tour? Est-ce que vous vivrez par la foi à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce moment? Est-ce que vous vivez par la foi ou êtes-vous soucieux ou anxieux? Verset 9. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péagé. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même comme ce péager. Je jeûne deux fois dans la semaine, je donne la dîme à tous mes revenus, de tous mes revenus. » Et le péager se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plus que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. La foi. La foi, c'est d'avoir la capacité de Dieu de discerner, de voir la différence que nous voyons ici, la différence dans notre propre vie. On ne juge pas les autres, on ne se compare pas, on juge notre propre vie. Dieu nous donne la capacité, par la foi, de voir le péché dans notre vie, de discerner la différence, que nous soyons remplis de fierté avec du péché, ou si nous vivons une vie d'humilité. Nous nous efforçons de voir Dieu dans la simplicité. dans la sincérité et la vérité. La foi, c'est la capacité de voir la différence, de voir la vie, de voir le péché dans nos vies, de nous juger nous-mêmes. La foi, c'est d'avoir la capacité de voir la fierté en nous, de chercher l'humilité, cherchant l'humilité. Verset 15. Des gens lui apportaient même les nouveau-nés pour qu'il les touche. Mais quand les disciples, en voyant cela, leur faisaient des reproches. Mais Jésus les fit appeler et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Voici un exemple d'humilité comme un petit enfant. Nous devons être capables d'être enseignés, humbles, un désir d'être enseigné. Comme un petit enfant, quand nous sommes appelés au début, quand on voulait... On avait un désir profond d'apprendre, de découvrir, qui nous a été donné autant de Dieu. Et quand on échoue, alors, ça nous a fait mal quand on échouait, quand on tombait, on criait vers Dieu pour le pardon. Et on a cherché sa voie pour revenir vers lui. Juste comme un petit enfant, un exemple d'humilité, et d'être humble et d'avoir un esprit qui peut être enseigné, un désir d'apprendre. La foi, c'est de faire confiance en Dieu, d'accomplir sa volonté en nous. D'accomplir sa volonté en nous. Donc, il dit encore dans Hébreux 11, « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Regardez ce verset. Je pense que c'est intéressant de regarder la définition de la foi dans le dictionnaire. Et vous pouvez voir comment c'est limité de prendre la définition de la foi dans ce verset, comme on l'a disséqué auparavant, on a cherché ce qui était dedans. Mais si on regarde un niveau plus élevé, la définition du dictionnaire, ce qui marche, dit que la foi, c'est la loyauté. La foi, c'est la croyance et la confiance. La foi, c'est la confiance totale. La foi, c'est quelque chose que nous croyons dans une conviction profonde, sans doute ou question. La foi, c'est une allégeance inébranlable. La foi, c'est une dépendance forte. C'est la loyauté envers Dieu, envers votre appel. C'est la foi, c'est la croyance et la confiance, la confiance en Dieu, en son plan, son dessein. C'est une confiance complète, totale, inébranlable, être inébranlable et fort. C'est de croire, une conviction forte, sans doute, sans question, sans doute. Une conviction forte, sans aucun doute, sans aucune question. La foi, c'est une allégeance inébranlable. Une allégeance à Dieu, à la vérité, une loyauté. C'est une dépendance très forte.
2 Corinthiens, chapitre 13.
Le deuxième livre des Corinthiens est chapitre 13. On commençait au verset, le premier verset.
Second Corinthians 13, verse 1, it says,
je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, je l'ai déjà dit, et aujourd'hui, je suis absent. Je le dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Car si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié en raison de faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui pour vous en raison de la puissance de Dieu. Et il dit au verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec, que vous soyez disqualifié. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec ou une disqualification pour vous. Examinez-vous vous-même. Que nous vivons réellement par la foi. Considérez la définition de la Bible. Ce que nous avons étudié, comparé, examinez-vous vous-même, comme cette dissection que nous avons faite dans Hébreux 11, premier verset. Vous demandez vous-même, est-ce que je suis réellement dans la foi? Est-ce que je vis vraiment par la foi? Ou est-ce que je renie le Christ? Est-ce que je nie le Christ en moi? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu qui est sans levain? Ou est-ce que j'ai de la fierté? Est-ce que je suis coupé de Dieu? Est-ce que j'ai du péché dont je ne me suis pas repenti? Examinez-vous vous-même. Assurez-vous que vous êtes dans la foi. Regardant pour cette promesse, vous attendant au retour de Jésus-Christ. Et la promesse qui vient avec cela. Tournons maintenant notre Bible, ouvrons-les au psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est ébranlée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grandes, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix. La terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traîne. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. La désolation qu'il a mise sur la terre, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je serai exalté sur toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une retraite. C'est ce que nous faisons. Donc allons maintenant à Deutéronome, chapitre 30 et au verset 15. Il dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. C'est comme cette définition de la foi, et nous en arrivons jusqu'à cette dernière parole. Et cette définition de la foi, jusqu'à la fin même, jusqu'à la vraie, la fin même, le dernier mot, la dernière parole, faites attention. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez. Et que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession. Verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Il dit verset 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car c'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Et voilà. Donc retirez le levain, retirez la fierté, retirez le péché. Et développer une relation sans levain avec Dieu le Père et l'un et l'autre. Être délivré, délivré par l'humilité, la repentance, cherchant Dieu pour la repentance, pour l'humilité et la délivrance. Nous tournant vers Dieu pour la délivrance, pour qu'il retire du milieu de nous le cœur de pierre, pour qu'il établisse sa voie. Être attiré pour être le peuple de Dieu, d'être une voie, un chemin, pour être établi dans l'unité, finalement, à travers notre appel, mes frères, la repentance, le baptême, le pardon des péchés, et l'imposition des mains et la réception du Saint-Esprit de Dieu. Quand vous pensez à toutes ces choses, ce processus à travers lequel nous sommes tous passés, à travers notre appel, et nous repentons et répondons, réagissant à cet appel, étant baptisés, ayant reçu le pardon des péchés et l'imposition des mains, et de recevoir l'Esprit de Dieu, tout ce processus, nous avons l'opportunité d'être le peuple spécial de Dieu. Et nous arrivons maintenant à l'étape suivante dans cette progression, de continuer ce mode de vie, de récolter les bénéfices. Nous devons avoir la foi. Nous devons vivre le mode de vie de Dieu par la foi. Vivre la foi. Vivre par la foi.